Welcome to Radio Campus.
Welcome to Radio Campus.
Radio Campus Orleans 88.3 FM.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche un tueur au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission hebdomadaire d'actu. Ce sont les mardis, tous les mardis, entre 19 et 20 heures. Ce soir, c'est la dernière de la saison. Et en studio, avec moi, Asma. Bonsoir, Asma.
Bonsoir, Hassan.
Hola, ouais,
bonsoir tout le monde.
Très belle voix, tout douce, toute forte. Tu nous parles d'une exposition visible au Cercil, à
oui.
Orléans,
oui.
Sur le génocide rwandais.
C'est ça.
Une exposition visible jusqu'en septembre.
Hein. Oui.
Steven, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à tous et à toutes.
Toi, tu as participé à la présentation d'un livre il n'y a pas longtemps, de Régis Guyotta.
C'est ça, ouais, exactement.
Sur l'immigration dans le Loiret.
C'est ça, durant les Trente Glorieuses.
Nickel, on va écouter ça. Monsieur Thomas, Thomas Deray est avec
nous. Monsieur Hassan.
Comment ça va Thomas?
Ça va bien, bon, et
Thomas,
toi?
Thomas est avec nous pour la dernière, bienvenue dans cette émission.
Merci.
Et Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à
le
toutes
retour,
et à tous.
Le retour.
De retour.
De retour après 2 semaines de vacances en Italie, chez les fachos.
Voilà, c'est ça. Bah, tu vas nous raconter si on a un peu le temps à la fin. Et puis également Erwan derrière moi, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait cette année pour moi techniquement. Et là, je suis, je crois que je vais prendre des photos, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un pilote d'un jumbo jet. J'ai des écrans partout. Et puis, Erwan nous permet d'être en direct avec Mourad de Guichard. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi Hassan.
Merci d'être avec nous. Jusqu'à là, jusqu'il y a 2 heures, on ne savait pas trop. D'être avec nous pour la dernière de cette émission. Et pour ta chronique de début d'émission, nous allons parler de cette idée folle au début, mais très belle. Le cinéma mobile, c'est un cinéma itinérant en région centre. Et tu as fait un dossier, oui, un article en tout cas. Dans l'Humanité.
Un
reportage de l'Humanité Mag.
Oui, absolument. Alors, je fais une petite parenthèse préalable. Si ça ne t'embête pas, je ne savais pas que c'est la dernière de la saison. Donc, j'en suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. On se retrouvera à la rentrée avec grand plaisir, d'une part. Et d'autre part, quand j'entends, je t'entends égrener les présences dans le studio, bah, je suis juste dégoûté de ne pas être là.
Ben ouais. Et, bah, voilà. Surtout qu'on a bu un coup avant de rentrer en studio.
Faut pas le dire, faut pas le dire.
D'accord. Non, mais c'est pas la peine de le dire, puisqu'on le sait. Mais, vraiment entre voilà.
Tu nous manques aussi Mourad.
Et mon confrère, mon cher confrère. Alors toujours de la République du Centre ou pas?
Non, à Radio Campus Orléans désormais.
Ah ouais, Thomas est à Radio Campus et
oui.
S'occupe.
C'est complètement intégré, d'accord.
J'ai travaillé longtemps à la République du Centre, effectivement.
Oui, j'avais oublié de te présenter. Ouais. Tu t'occupes de l'éducation aux médias sur Radio Campus Orléans ouais. Depuis quelques mois maintenant.
Exactement. Je suis présent depuis mars, ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, c'est important de le préciser parce que voilà, pour nos auditeurs qui sachent, parce que c'est une signature Thomas Doré qu'on voit passer un peu partout. Donc du coup, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, c'est maintenant fixé ici. Et puis, bah, j'espère que je ferai la connaissance d'Asma, puisque
oui,
c'est la seule que je ne connais.
Avec plaisir.
Voilà, il fait un travail absolument, absolument remarquable. Et j'avais, alors je le dis à Steven, j'avais chroniqué pour le média dont je sors là, mon émission du média, j'avais chroniqué l'excellent bouquin du l'un des meilleurs pour moi. Journaliste orléanais.
Nous sommes d'accord.
Qui maintenant est en retraite de Régis Buyota, qui est accessoirement le frère de Pierre.
Oui,
et qui, alors je vous laisse regarder un peu sur les réseaux, ce qui est pas sur les réseaux, sur le web, qui est Pierre Buyota, voilà, dont il assure le maintien de la mémoire, et c'est une sacrée famille. Et vraiment, j'ai énormément de respect pour Régis Buyota et son travail sur ce bouquin qui humanise, qui ne comptabilise pas, c'est ce qui est écrit, je crois, en cadre de couve. Qui humanise et qui donne un nom, un visage à tous ces gens qui ont été surexploités dans la région d'Orléans. Et voilà, et malheureusement l'histoire nous montre que tout ça revient et que voilà, ça vaut le coup effectivement de souligner cette histoire et ce travail remarquable de Régis. Voilà, je ferme la parenthèse, je voulais juste vous saluer et je serais vraiment vraiment preneur si vous le pouvez à la fin de l'émission d'une photo collective. Peut-être même que vous pouvez poster sur Radio Campus Orléans, ce serait vraiment très sympa d'avoir vos visages.
On va faire ça.
On peut même t'intégrer numériquement dedans.
Ouais, on mettra sa photo. Bien
devant. Ah non, pas Pia, s'il vous plaît. Le mettre en maillot de bain, ça va être ridicule.
Et donc ce reportage. Avec un titre.
Voilà, je ferme la parenthèse. Juste avant de fermer la parenthèse, effectivement, un immense, immense merci pour Erwan, parce que évidemment, les auditeurs ne peuvent pas le deviner, mais sans Erwan, aucun direct n'aurait été possible pour cette chronique. Et donc vraiment, merci infiniment Erwan pour tout ton accompagnement technique qui est juste essentiel. Voilà, tout simplement.
Essentiel.
Et
bon.
Je suis capable de prendre la parole.
Oui,
en
plus.
Sur Radio Corp. Et oui, je suis un hacker.
Oui, il n'est pas dans le studio, hein, je précise.
Et pour aller le studio, et je peux du coup voilà, dire à chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours que bah, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de pouvoir faire en sorte de toujours pousser plus loin les technologies qu'on développe à Radio Campus Orléans pour faire du duplex notamment. Voilà.
Il est très
bravo.
Fort.
Bravo.
Il est très fort.
Ouais.
Allez, on reprend.
Oui.
On reprend.
Ben oui.
Ah, excuse-moi.
Non, mais il y a pas de souci. Ouais. Et ce reportage, cet article, je le redis, hein, dans l'Humanité Magazine, avec le titre, parce qu'il y a un jeu de mots dans le titre. C'est alors rappelle-nous, redis-moi.
Ah, je l'ai pas sous les yeux parce que
oui.
C'est le service d'édition qui fait le titre. Mais... Oui.
Ah, ok. Oui, du coup, je me disais oui. Alors, je sais plus. Je l'ai plus non plus devant moi. Mais en tout cas, très très beau titre. Je le retrouverai. Vas-y, alors ce reportage, donc s'il est mobile, je disais, hein, très très belle idée.
Beau comme un camion. Ouais. Voilà, le 7e art chez vous, beau comme un camion, je viens de le retrouver.
Ouais, c'est ça, absolument.
Voilà, donc, c'est, je le précise parce que c'est un métier, hein, l'édition, et donc c'est le service édition de l'Humanité qui fait les titres.
Okay.
Voilà, ou généralement des titres assez sympathiques, effectivement. Ouais.
Une très belle idée. La région centre est la seule région, il me semble, en France, à avoir ce cinéma itinérant.
Oui, absolument. C'est la première et la seule. Ça fait 40 ans que ça dure. Honnêtement, je ne pensais pas, en démarrant ce reportage, je ne pensais pas que c'était aussi ancien que ça. Et donc, y compris quand c'est passé à droite, chaque exécutif régional a prorogé, a continué de financer cette superbe expérience qui maintenant est inscrite dans le marbre, y compris observée par d'autres régions, même en Europe. Hein, parce que le cinémobile, donc, c'est quoi ? C'est 4 camions. Alors, je vous invite vraiment à aller voir les photos, notamment. Alors, j'en ai posté sur mon compte Twitter, Moumou dans Score Guichard, parce que c'est très impressionnant. C'est un camion en fait qui va développer. Au sens premier du terme, il va développer deux espèces de nacelles sur les côtés et qui va ensuite installer une salle de cinéma. Mais vraiment, c'est bluffant. C'est-à-dire que quand on voit la photo de la salle de cinéma une fois installée, c'est entre 80 et 100 places. On a vraiment l'impression d'être dans un cinéma d'arrêt d'essai, sauf que ben, c'est sur une place d'un village, d'une petite commune, et que ça vient proposer parfois, même souvent, un mois après la diffusion, c'est-à-dire très brièvement hein, après la diffusion. Donc c'est pas des vieux, on sort pas des vieux nanars des années 60. Un mois après la diffusion, les gens peuvent accéder pour 4 euros à des films vraiment de grande qualité. Il y a de l'arrêt d'essai, il y a du grand public, il y a tout, et donc ça fait se côtoyer des gens de tous les milieux, de toutes conditions, de tout âge, et parfois avec des aides, notamment je pense au Resto du Cœur ou au Secours Populaire, ils arrivent à la mission locale à avoir des places pour 1 euro, et donc ça profite à des gens qui notamment ne peuvent pas aller par exemple, alors là j'étais à Mer en reportage juste avant les élections, à Mer, on est à quelques kilomètres de Blois, mais enfin quand même on est à 20 minutes de Blois quoi, 25 minutes, et beaucoup de jeunes n'ont pas de voiture par exemple, mais là peuvent aller au cinéma et voir, j'en ai rencontré plusieurs, peuvent aller voir des films dans un cadre voilà hyper convivial parce que ça se passe juste à côté, et Surtout, j'ai rencontré l'un des projectionnistes qui en fait est à la fois alors projectionniste, conducteur du camion, réparateur du camion, qui s'occupe de l'entretien de la salle, c'est-à-dire concrètement hein, de l'aspirateur, voilà, qui encaisse les recettes et qui va par exemple, alors qui va découcher de manière régulière toute la semaine, hein, puisqu'il faut sillonner les routes, donc il va découcher, qui va dormir par exemple à l'hôtel à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui est quand même pas le rêve absolu. Hein. Dormir à l'hôtel à Saint-Jean-de-la-Ruelle, on a connu plus sexy.
On salue les gens et de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui n'ont rien demandé et qui, voilà, vas-y Mourad.
Saint-Jean-de-la-Ruelle, il dort pas à l'hôtel à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et franchement, c'est, voilà, je veux dire, c'est pas des conditions de travail particulièrement sexy, mais voilà, et il me racontait par exemple que il s'est retrouvé un soir à 23h sous le camion, sous la pluie, à réparer la porte parce qu'elle ne fermait pas et qu'il fallait impérativement que ce soit fermé pour le ramener le camion et qu'il soit opérationnel le lendemain matin pour une nouvelle séance. Et donc, il a passé une heure sous la pluie à réparer le camion. Et voilà quoi. Et ce garçon que j'ai rencontré, en fait, était hyper, hyper fier de son travail parce qu'il estimait que c'était un véritable travail de service public, de contact avec la population. Il était hyper fier de faire ce boulot et franchement, je lui tire mon chapeau. Quoi. Il reste des gens comme ça qui sont capables de se sacrifier parce que c'est pas un salaire mirobolant du tout. C'est des conditions de travail très dures, mais il est fier de son taf parce que il vient rendre service à des gens qui dans les milieux ruraux, dans les campagnes, n'ont pas accès à la culture, n'ont pas accès au cinéma. Souvent, il y a des débats avec les acteurs, avec les réalisateurs, et c'est voilà quoi, c'est magnifique. La région dépense des millions d'euros par an pour ça, mais je pense que ça vaut vraiment le coup.
Il faut rappeler, hein, la séance est à 4 euros seulement.
Oui, c'est ça, 4 euros, voire 1 euro quand on est élu. C'est voilà, même le max, le grand max, c'est 4 euros, donc c'est juste incroyable quand on sait que les cinémas de centre-ville, c'est maintenant ça aussi entre 12 et 17 euros.
Bien sûr,
je trouve que un gros effort de la région. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série d'interviews, notamment de Philippe Germain, donc le patron de Cyclique, oui, l'agence régionale qui gère ces cinémobiles, hein, ils sont au nombre de 4, je crois, du président de région, François Bonneau, c'est que ils ont politisé la question, et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ils ont expliqué qu'avec ces cinémobiles, en fait, on contrariait la fracture entre le monde rural et les villes, à savoir que on était sur une accessibilité en fait à la culture pour tous. Et que ça venait empêcher, enfin, au moins, comme je vous dis, contrarier un peu ce phénomène d'abandon et ce phénomène qui pousse, évidemment, et c'est pour ça que je dis que c'est un discours extrêmement politique, qui pousse les gens à se tourner vers l'extrême droite en estimant que c'est eux qui allaient régler le problème, alors que là, c'est en partie, au moins sur la question culturelle, réglée par ce fameux cinémobile qui n'est pas juste un gadget, qui est un outil de cohésion territoriale, sociale, et comme le disait François Bonneau, tout simplement du vivre ensemble. Et je trouve ça, voilà. Donc on part d'un sujet un peu qui peut paraître un peu sympa, un peu léger, pour arriver sur un terrain qui me semble beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important.
Oui, tu as interviewé le président de la région, qu'on trouve à la fin de ton article, Victor.
Oui. Moi, c'est là-dessus que je voulais revenir. En fait, c'est sur cet aspect décloisonnement, en fait, qui est vraiment important au niveau de la culture. Parce que le problème, c'est que la culture, en général, ça vient des villes, que ce soit le théâtre, le cinéma, etc. et tout. Et c'est extrêmement important de pouvoir donner des clés et des outils culturels à des personnes qui sont issues de milieux plutôt ruraux. Parce que ça leur permet d'avoir une ouverture sur le monde, ça leur permet d'avoir une autre vision de ce que peut être la vie de façon générale. Et je pense que c'est super important. Et comme tu dis, je pense que voilà, le cinéma, si tous les gens consommaient du cinéma, personne ne voterait RN. Je pense que c'est le cas, en fait.
Oh, bah, on touche du bois en disant ça, monsieur. Parce que je pense que, ouais, voilà. Bah, oui, en tout cas, on peut le penser, en tout cas. Mourad ?
Absolument. Il y a de ça. Et puis, le fait de... Voilà, ils vont également décentraliser le cinéma mobile dans les EHPAD, hein, par exemple. C'est-à-dire que c'est non pas les gens des EHPAD, parce que malheureusement, ils ont une mobilité très réduite, mais c'est le cinéma mobile qui va, lui, rentrer dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'ils vont tout installer pour que les gens puissent voir, puissent avoir des projections avec des films... entre guillemets adapté, c'est-à-dire peut-être que quand les gens ont envie ou besoin de voir des films en noir et blanc de leur jeunesse ou autre, ils se plient à ça. Il y a des comités, il y a des relais locaux, il y a des espèces d'ambassadeurs en fait dans chaque ville qui vont élaborer avec Cyclique la programmation. Donc tout ça est fait démocratiquement, tout ça est fait de manière ouverte et concertée. C'est une très belle expérience, c'est une très belle aventure, et voilà, je suis très content de l'avoir relaté dans les colonnes de l'Humanité Magazine.
Deuxième sujet, Mourad, avec toi, c'est de l'actu. Il y a 2 ans, je crois, nos confrères de la Quadrature du Net, ce qui se fait de mieux dans l'actu du numérique, avaient porté plainte contre la ville d'Orléans. Ils avaient déposé un recours, exactement, contre un contrat passé par la ville d'Orléans qui autorise l'expérimentation de capteurs sonores. On en avait parlé dans cette émission, c'est-à-dire que quand vous baladez dans la rue, on aurait pu te retrouver, Asma, grâce à ton rire. Donc voilà, et Mourad, nos confrères ont gagné, en fait. C'est ça l'actu. Oui,
absolument. Ils ont fait un recours auprès du tribunal administratif, donc un recours classique, pour obtenir l'annulation pure et simple, en fait, du contrat, qu'il y ait l'entreprise qui est le fabricant, en fait, de ces fameuses caméras, ouais. Et qui avait expérimenté à Orléans. Alors, ce qui est très étonnant, c'est à lire dans l'UMA demain, dans l'Humanité quotidienne de demain. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, Saint-Étienne, une ville qui m'est très chère pour des raisons que vous connaissez, Saint-Étienne, en fait, avait déjà été déboutée. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait dû jeter l'éponge sur cette expérimentation qui avait été jugée illégale. Et là, malgré ça, Florent Montillo, très bizarrement, et le maire d'Orléans ont bataillé, se sont défoncés pour maintenir pendant 2 ans une expérimentation totalement illégale. Parce qu'on ne sait pas si les sons sont gardés, pas gardés, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on n'écoute pas. Donc, c'est des caméras qui vont tourner en fonction des sons qui sont captés, des sons qui sont, de manière tout à fait subjective, qui sont considérés comme potentiellement délictueux. Et donc, du coup, la police va intervenir suite à ces caméras qui vont se tourner vers des gens qui parlent un peu fort ou qui rigolent un peu fort. Asma, il faut vraiment que tu rentres pas trop tard le soir, s'il te plaît.
S'il te plaît, ouais.
Je commence à faire un effort là-dessus. Ouais.
Alors, l'entreprise, c'est Saint-Civic, et effectivement, tu disais, il y a Saint-Étienne, Marseille, Paris ou Moiran déjà. La Quadrature du Net avait fait des actions en justice. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qu'on va lire dans l'Humain demain, c'est que ils ont gagné contre Orléans. On n'a pas de nouvelles de la mairie là, d'Orléans.
Non, ils n'ont pas encore réagi, mais oui, ils ont été.
Alors, tu les as contactés ou pas?
Non, pas parce que j'étais en enregistrement toute l'après-midi, mais ils ont été condamnés à 1 500 € de prune à verser à la Quadrature du Net, et puis ils ont été ils sont obligés de rompre le contrat avec effectivement Saint-Civic, l'entreprise, et donc de stopper ce qu'ils ont fait pendant 2 ans de manière illégale, à savoir stopper le captage de son avec ces fameuses caméras. Il y en avait 4 qui étaient disposé sur les principales places d'Orléans, et donc c'est une victoire totale et absolue, hein, de la Quadrature du Net, et alors que, bah, je vous dis, Florent Montillo était vraiment vraiment mais complètement investi dans ça, mais comme il a été investi dans d'autres projets, hein, notamment le fameux Space Train qui devait relier Paris à Orléans en un quart d'heure, dont on connaît l'issue. Voilà, il faudrait peut-être que les élus orléanais fassent preuve d'un peu plus d'humilité et écoutent un peu le droit et surtout se dotent de juristes un peu plus sérieux qui leur expliquent que ça va planter et que voilà, parce que 1500 euros c'est pas grand chose, hein.
Oui, bien
mais
sûr,
n'empêche,
mais n'empêche
que c'est payé par le contribuable orléanais.
Absolument. Merci Mourad, et je le redis, merci la qualité de ta participation toute cette année encore, cette saison à bâton rompu. On se retrouve à la rentrée maintenant.
Oui, avec grand plaisir, et je redis vraiment ma déception profonde de ne pas être avec vous ce soir, mais on rattrapera ça à la rentrée. Voilà, pour la première de rentrée, j'espère qu'on sera tous ensemble. Tous ensemble, ouais.
Merci à toi. Merci à toi. Un peu de musique, Yasmin, on vient vers toi. Oui. Allez, on prend le large.
Il est donné, nous n'est. T'es ma tempête, à mon joker. Foudou le pussy gay. Jut. Fincal ton lima, à mon joker. To find my way.
Vers les sables du Sénégal, quand il dit chouf, jet, ça veut dire sable et mer en wolof. Youssoundour, c'est la langue du Sénégal. Donc Youssoundour à l'instant sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. On continue à bâton rompu.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Avec cette exposition sur le génocide des Tutsis, Yasma, oui. C'est à voir au CERCIL à Orléans.
Voilà, c'est depuis le 7 juillet dernier, le CERCIL, le musée mémorial de la Shoah à Orléans, commémore le 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Il contribue à la commémoration de tous les génocides, en fait. Il est connu surtout pour la Shoah, mais tous les génocides. Ils font quelque chose d'assez intéressant qui consiste à chercher les points communs entre tous les génocides, les mécanismes, un travail d'historien, en fait.
Bah, c'est le mémorial, hein, c'est le musée mémorial des enfants du Vel'd'Hiv, notamment.
Oui, c'est ça.
Et c'est le centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret.
Du Loiret, oui, c'est ça. Et ils étudient vraiment les mécanismes qu'on retrouve en amont dans les années qui précèdent quasiment tous les génocides. Donc cette exposition, qui est visible depuis le 7 juillet, retrace chaque étape de l'histoire du Rwanda, les étapes qui précèdent, les années qui précèdent le génocide, et les tensions donc, entre les deux populations, des Hutus et des Tutsis. La terreur, les discriminations sociales exercées par les Hutus sur la population des Tutsis, qui était à l'époque minoritaire. Maintenant, c'est deux déterminations dont on n'entend plus parler. Les Hutus et les Tutsis, c'est quelque chose qui n'existe plus. On n'entend plus ces mots.
Mais en tout cas, ils essayent. Mais c'est, oui. Crois-moi, élection présidentielle au Rwanda hier, que j'ai suivi un petit peu, il y a encore un peu de ça.
Ah ouais ?
Ouais, mais un tout petit peu, ouais. Évidemment. Ouais, vas-y.
Donc jusqu'au génocide, tout ce qui agit vraiment en amont, ça passe par des discriminations sociales, des terreurs, des barrages militaires, des contrôles excessifs, jusqu'au génocide qui s'est déroulé entre le 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet 1994, qui a duré seulement 3 mois et qui a fait 1 million de morts en 3 mois. Le point de départ qui a servi de prétexte aux Hutus à persécuter les Tutsis, à les assassiner, c'était la mort du président Habyarimana. Je me suis entraînée Habyarimana dans un attentat, donc en avion. Et là, les Hutus ont obéi à une espèce d'idéologie paranoïaque que l'exposition montre très très bien. Une idéologie paranoïaque qui œuvrait déjà, qu'on retrouve dans beaucoup de délires génocidaires, qui consistait à se défendre en fait d'un ennemi. Et à se persuader que c'était les Tutsis qui avaient assassiné le président. Donc c'était, il faut assassiner les Tutsis, sinon c'est eux qui vont nous tuer. Donc on voit bien comment la folie paranoïaque guide le délire meurtrier et opère une espèce de contagion. Tout le monde adhère à ce délire qui résonne beaucoup trop bien. C'est du délire dans le réel, ça s'articule trop bien, ça se tient en fait, c'est ça qui est terrible. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très bien décrit dans un livre qui s'appelle « Psychopathologie du totalitarisme ». J'ai déjà dû en parler, j'en fais souvent mention. Un livre très 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 intéressant pour ceux que ça intéresse, « Psychopathologie du totalitarisme » d'Ariane Bileran. C'est une philosophe et psychologue. On peut retrouver beaucoup de podcasts d'elle sur YouTube.
D'accord.
Et elle montre comment la psychose paranoïaque est toujours à l'œuvre dans les systèmes totalitaires et meurtrier, et que c'est une folie organisée, en fait, une folie qui résonne. Et ce qui marque l'atrocité de ces années au Rwanda, c'est que c'était un massacre à ciel ouvert, aux yeux de tous, assumé, encouragé par les médias, notamment la radio, qui diffuse des appels à ne pas les laisser s'enfuir, à les massacrer, à ne pas cacher les cafards, comme ils étaient dénommés.
Ils les appelaient comme ça.
Et les lieux des massacres, et ça c'est toute la perversité organisée, les lieux des massacres c'est justement des endroits de sécurité où les Tutsis allaient se réfugier, comme les hôpitaux, les églises et les écoles.
Et le jour où tu étais à cette exposition, il y avait aussi le témoignage d'une femme rescapée.
Oui.
J'arrive pas à lire le nom. Mais,
Léni Mouniakazi.
Veuve, hein.
Léni Mouniakazi, oui.
Ça devait être fort.
C'était très très fort, c'était le 7 juillet, c'était un dimanche. Le CERCIL, pour la toute première, nous a donné l'occasion d'entendre son témoignage. C'est une femme qui avait 33 ans en 1994, au début du génocide. Et elle a commencé son témoignage en nous disant « Je n'étais pas encore née que les Tutsis étaient déjà menacés au Rwanda. Mais les adultes ne parlent pas beaucoup de ces choses-là. Ils ne voulaient pas faire peur aux enfants. » Voilà. Donc elle a connu une enfance où les enfants jouaient ensemble, ne reconnaissaient pas la haine.
Bien sûr.
Mais si on peut le remonter au moment où la persécution commence, ça remonte à 1959 en fait, 1960. Et donc elle nous raconte au fil des années comment sa scolarité a été impactée. Elle est progressivement refusée de certaines écoles. On l'oblige à montrer sa carte d'identité partout. Elle est fichée comme appartenant à cette population. Elle voit son père être arrêté, son frère de 34 ans être emprisonné, torturé, puis mourir peu de temps après sa libération des suites des mauvais traitements. Et elle dit d'ailleurs, là on a eu peur. Il y a eu plein de moments, plein de tournants où elle dit, là on a eu peur. Et elle se souvient de son autre frère, d'ailleurs, le soir des de l'attentat, qui tue le président. C'est le principal tournant. Le soir du 6 avril, elle voit à la télé l'attentat, et elle se souvient de son frère qui lui dit « Si le président est mort de cet attentat, si le président est mort, sache que c'est la fin de notre vie. » Et elle nous raconte tout son calvaire. Et ce qui est marquant, en fait, c'est l'arrêt du temps, la temporalité, la façon elle raconte. Et puis, le 6 avril, le président meurt. Et là, c'est jour après jour, matin après matin, heure après heure.
Ouais, ouais.
Et elle parle au présent. Donc, c'est ça qui est assez marquant dans son récit.
Ouais.
Et elle nous raconte le début du calvaire, en fait. Le dernier coup de téléphone à sa sœur, qui lui dit quelque chose, qui lui apprend, en fait, que dans la nuit du 7 avril et le matin, les Tutsis ont été massacrés. Et elle devine que ses enfants ont probablement été massacrés, oui. En fait. Et sa sœur lui dit quelque chose qui nous a tous, je pense, cloué la gorge. Elle lui dit « Si on ne se reparle pas, sois courageuse, on se reverra au ciel. » Ça, c'est quelque chose de terrible. Et voilà, et elle apprend progressivement entre le moment où peut-être que ses enfants sont morts, mais elle espère encore, mais elle cherche, parce qu'elle nous dit, il n'y avait pas le téléphone, en fait.
Mmh.
C'est
bien sûr.
C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un, donc les bruits courent, en fait. Et jusqu'au moment où elle apprend que son frère fait partie des victimes du massacre du matin du 7, que ses enfants, et elle dit, là, c'était trop. C'était trop pour moi, et elle entame un calvaire, une espèce de... On ne sait pas, on a l'impression que ça tient un fil, son évasion. Elle arrive à s'enfuir. Mmh. Elle arrive à s'enfuir, mais vraiment, ça tient un fil. Elle ne sait pas à qui faire confiance, qui va obéir, à qui va la dénoncer, qui va tout simplement la massacrer. Et elle arrive à s'enfuir, et elle parlera de tout ça qu'en France.
Ah oui,
elle ne parlera de tout ça qu'en France. Et elle dit, j'ai décidé de vivre. Elle nous disait très souvent ça. La mort n'a pas voulu de moi, j'ai décidé de vivre.
Et là, maintenant, elle est installée en France. Hein,
oui, exactement. Aujourd'hui, elle a fondé une association qui s'appelle Toubeo Family. Elle nous précise que Toubeo, ça veut dire vivre. Et elle a écrit d'ailleurs son histoire dans un livre avec une dizaine d'autres témoignages de rescapés comme elle. Le livre s'appelle Rwanda 1994, paroles de rescapés. Témoignage de génocide perpétré contre les Tutsis aux éditions L'Harmattan, sorti en 2020. Elle est très médiatisée, on la trouve facilement sur YouTube, il y a beaucoup d'interviews. Elle s'appelle Leni Munyakazi. C'est une histoire importante, bouleversante, difficile à écouter. Nous, on a eu beaucoup de mal à l'écouter.
Oui.
Moi, j'ai personnellement été très émue. Elle est venue habillée en rose pastel pailleté. Elle était extrêmement belle. Voilà, c'est une histoire importante. Elle a une façon de raconter qui est très concrète, qui est vraiment heure par heure, jour après jour. Et voilà, il faut l'écouter.
Bah, bien sûr,
l'exposition est au Cercil, dans le centre-ville d'Orléans. On peut y aller jusqu'au 22 septembre. On apprend beaucoup de choses. C'est un cours d'histoire, de géopolitique, de psychopathologie aussi, parce que c'est quand même la folie meurtrière. Et d'humanité surtout, quand même. Et elle dit quelque chose de très intéressant qui, moi, m'a marqué. Elle dit qu'il y a eu des procès à la fin du génocide, du crime contre l'humanité. Les bourreaux sont pour beaucoup partis, et elles nous disent surtout en France.
Mais oui.
Il y en a beaucoup en France.
À lire vraiment les œuvres de l'ami François Robinet que nous avons eu, que j'ai eu souvent ici dans cette émission pour parler de ce génocide. François travaille sur le Rwanda et oui, il y a beaucoup de... La dernière fois, on parlait notamment du monsieur, le milliardaire qui a financé, qui a acheté des machettes. Le gars, il a acheté des machettes, il a filé à tout le monde. Il était arrêté, il a 80. Il est en prison là, il a 82 ans ou 89. Il est en prison. Il sera peut-être jamais jugé, ce monsieur. François Robinet. Allez regarder ce qu'il fait sur le Rwanda. Et puis surtout, oui, évidemment, je connais aussi des Tutsis en France qui ont connu cette atrocité, quoi. Et puis, Victor, tu nous avais fait un...
Oui, j'avais fait une chronique l'année dernière, ou c'était il y a deux ans, je ne sais plus, quand Emmanuel Macron était allé au Rwanda justement pour la commémoration du génocide. Ouais. Effectivement, il y a deux trucs qui me reviennent en mémoire là, quand j'entends Asma faire sa chronique. La première, c'était le livre Petit Pays de Gaël Faye.
Tout à fait.
qui est un bouquin qui, alors c'est une autofiction, donc du coup il raconte un petit peu les souvenirs qu'il a de cette époque, etc. et tout, et l'histoire de sa famille. Et, mais c'est un très bon première approche du génocide rwandais. Qui peut être lu par tout le monde, vraiment. C'était le prix Goncourt des lycéens, donc c'est assez lisible, quoi.
Il a perdu beaucoup de gens de sa famille, déjà au Burundi d'où il est originaire, et ensuite au Rwanda où il s'était installé. Ce Gaël Faye a vécu énormément de saloperies dans sa vie.
Et la deuxième, du coup, c'était... Asma nous a expliqué que les discriminations envers les Tutsis dataient de 1959. Et moi, là où je voudrais rappeler quelque chose, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup oublié en Occident. On avait l'impression que c'était juste deux catégories de population qui se massacraient. Mais il faut bien se rappeler que ces deux catégories de population ont été poussées, imposées par l'administration coloniale belge.
Par les Belges.
Par les Belges.
Ils font pas que des frites, ils opposent les Hutus.
Non, mais après, pareil, le Congo, les Belges, ils savent même pas jouer au foot.
Allez, on y va. Un autre truc sur les Belges, alors. C'est les vacances après, dans une demi-heure.
Non, mais du coup, l'administration coloniale belge a mis en place ces catégories, a créé des rancœurs vraiment très fortes entre ces deux populations qui ont amené, en fait, à l'aboutissement de ce phénomène-là qui a été le génocide.
Tout à fait.
Mais faut pas oublier, voilà, que c'est quand même la faute des Occidentaux, encore et toujours.
Ah oui, toujours.
Allez, Thomas. Donc...
Moi, je voulais poursuivre aussi avec un petit conseil lecture. Tu parlais à la fin de ta chronique du départ de certains de ces bourreaux. Parlons aussi du retour de nombre de ces bourreaux juste à côté des familles qui avaient vécu le massacre et le génocide, ce qui est très bien raconté par le journaliste Jean Hatzfeld dans un livre qui s'appelle La Stratégie. Alors il y a La Stratégie des Antilopes qui est le troisième volet de cette trilogie, Dans le nu de la vie et Une saison de machette. Je remercie d'ailleurs Nadia Ayala Kisukidi, une philosophe que tu connais très très bien, à Hassan, philosophe spécialiste, on va dire presque mondial, de Bergson, notamment,
absolument,
de la philosophie de Bergson,
absolument,
que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur en terminale au lycée Maurice Genevoix d'Ingré. J'ai eu beaucoup de chance et elle nous a fait lire ce bouquin. Et je la remercie énormément de nous avoir fait lire cela, parce que ça a été vraiment une énorme découverte pour nous, jeunes élèves de terminale, qui ne connaissions strictement rien de ce génocide rwandais. Lisez cette trilogie de Jean Hatzfeld, même 20 ans après... encore d'actualité.
Nadia, qui est la compagne de François Robinet dont je vous parlais.
C'est ça.
Merci Asma. Merci. On ira voir. Alors il faut dire qu'il y a des visites guidées.
Oui.
Alors j'avais noté des dates que j'ai plus. Je crois que jeudi il y a une visite guidée, jeudi prochain, et puis il y a une autre date dans la semaine prochaine. Mais allez sur le site du CERCI, l'ami auditeur et auditrice, toi-même tu sais.
Abattant rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Nous allons maintenant parler du livre de Régis Guyota, l'ami, un autre ami. Connais du monde.
Ouais, tu le connais bien, il m'a parlé de toi.
C'est vrai ?
Oui.
Bah, tu lui as fait la bise, comme je te demandais.
Comme
disait Mourad, c'est un des confrères avec qui nous devons un grand, grand respect, Régis. Et effectivement, il a suivi cette histoire de l'immigration en région centre et notamment dans le Loiret. Et c'est le sujet de son livre.
Je voulais quand même finir là-dessus, en parler dans la dernière émission, parce que avec la séquence électorale qu'on a eue, assez riche en émotions, hein, le nouveau Front populaire, hein, Macron qui démontre encore une fois le connard qu'il est, tout ça. Hein.
Qui ça donc ?
Quoi ? Hein ? Macron ?
Comment ?
Plus précisément, je voulais revenir sur un truc que j'ai entendu sur Blast. Ils ont parlé d'un décalage entre les médias et la société, de plus en plus flagrant. Bon, on le sait, hein, les médias mainstream ont une appétence particulière pour cirer les bottes du pouvoir. Je vous renvoie au docu Les Nouveaux Chiens de garde. Mais il y a un autre décalage dont on ne parle pas, c'est celui entre l'histoire et les récits qu'on entend de la part des politiciens ou de la presse.
Absolument. Et là, c'est tu veux dire que les discours qu'on entend dans les médias et de la classe politique sont en contradiction avec l'histoire ?
Ouais, précisément.
Mais t'as un exemple à donner ?
Un exemple comme ça, au hasard, allez, l'immigration ? Pur hasard. Pur hasard, voilà. Et donc, c'est là qu'intervient Régis Guyotoya, hein, que tu connais très bien, Hassan, à travers son livre « L'homme au passe-montagne, être immigré à Orléans durant les Trente Glorieuses ». Il propose de revenir sur la vie des immigrés à Orléans durant les années 60 à 80. Ouais. Avec la présentation qu'il en a fait le samedi 22 juin, on comprend que l'immigration a toujours été un enjeu politique et social. Hein. Pompidou disait en 63... que l'immigration est un moyen de créer une détente sur le marché du travail et de réaliser et de résister à la pression sociale. Donc voilà, on comprend tout l'enjeu que pouvait avoir l'immigration, déjà en 1963. Et moi, j'ajouterais aussi un enjeu colonial. Hein, pourquoi j'ajoute colonial ? Bah, écoutez justement comment se faisaient les recrutements des travailleurs immigrés.
Eh ben,
sauf si ils venaient nous chercher dans notre bled, au Maroc, ils venaient chercher les gens pour venir travailler parce qu'il manquait de main-d'œuvre partout dans le bâtiment. Il n'y avait pas l'autoroute A10 ou aucune autoroute et tout ça quand on arrivait. L'automobile était en panne de main-d'œuvre et tout ça. Ils partaient tous les jours. Il y a un train qui vient de Casablanca.
Les recruteurs de l'Office national d'immigration. Qui rassemblaient, enfin, quand ils allaient au Maroc, ils allaient dans les villages, ils rassemblaient les gens, et puis...
Ils prenaient les gens comme des esclaves. Mais les gens, ils étaient contents de quitter le Maroc, avoir un emploi ou quoi que ce soit à l'époque. C'était, après l'indépendance, 56, il y a eu l'indépendance. Quand on était, bon, il y avait les Marocains, c'est la France. Bon, je suis né français. Et j'ai fini par... Et jusqu'à 56, quand on a eu l'indépendance, après, on est venu ici, hein, et puis on a travaillé, et puis on est redevenu français encore. Et là, peut-être on va retourner marocain. Ils venaient chercher des gens pour venir en France, et tout ça, on parlait entre nous, bon, il y allait en France, c'était le paradis. Vous voyez, on a peiné, on a travaillé durement et tout ça, et arrivé là, on entend Bardella, hein, on va virer ça, il ne faut pas manger ça, il faut faire ça. C'est un pays, c'est ça le remerciement. Il n'y avait personne qui travaillait, les Français. On était dans une fonderie, on était 90% des immigrés. Rien que des Portugais et des Arabes.
Donc, la personne que vous venez d'entendre, c'est Rajdi, donc un ancien travailleur marocain qui est arrivé en France en 1959 et donc qui a pu, aux côtés de Régis, en suivre toute la période des Trente Glorieuses et revenir dessus. L'immigration était constituée donc de travailleurs portugais, de travailleurs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Turquie. Hein. Déjà dans les années 60, ce n'était pas la première fois que des personnes migraient pour travailler. Italiens et Polonais, durant l'entre-deux-guerres, aussi avaient fait le voyage. Comme eux, la France de l'extrême droite s'est mobilisée avec le même réflexe.
Ça vient. Alors, ça ne vient pas, alors. Je sais pas.
Le réflexe, hein, il est toujours le même. Hein. C'est-à-dire, priorité aux travailleurs français. Donc, on les a incités fortement à s'en aller. Au début, si vous voulez, à part 72, choc pétrolier. Donc là, les immigrés commencent à être ciblés. On se dit, il faudrait peut-être bien qu'ils rentrent chez eux. D'ailleurs, au départ, très souvent, la motivation des gens qui arrivent, hein, c'est de dire on travaille quelques années et puis après on retourne. Mais en réalité, ça se passe jamais comme ça. Historiquement, ça se passe jamais comme ça. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il y a des gens qui se retrouvent sans papiers. Tout de suite, hein, le gouvernement de l'époque commence à pondre des lois. Alors,
Les droitos, ils ont plein de réflexes. Hein. Il suffit d'écouter l'abject Darmanin parler du racisme. Hein. Vous vous souvenez des réflexes culturels qui peuvent être inspirés d'une forme de rejet de l'autre. Bah, nique-toi, en fait. T'inquiète, Hassan, c'est juste un réflexe culturel qui peut être exprimé à la vue d'un gros connard.
Mais t'as profité d'un truc, j'ai baissé mon micro. Et ça, c'est pas bien.
Écoute. Hein. Et en plus, ces gros connards, ils multiplient les lois anti-immigration, ils plongent des milliers de personnes dans la précarité, qui sont contraintes de partir, perdant au passage tous leurs droits accumulés en France. Maintenant qu'on ne vienne pas me dire que l'immigration est un sujet nouveau dont seule l'extrême droite ose parler. Hein. L'immigration a toujours été le sujet pour permettre aux incompétents d'échapper à leurs responsabilités, pointant du doigt celles et ceux qui avaient été recrutés pour faire le sale boulot, et ça dans des conditions inhumaines.
Un autre endroit à Orléans, c'était au bout de la source, parce que le gros chantier d'Orléans à cette époque-là, c'était la construction de la source. qui a commencé au début des années 60, mais en 70, c'était loin d'être terminé. Donc il fallait loger des travailleurs, là, et il y avait un endroit qu'on appelait le camp de concire, hein, tout le monde appelait ça le camp.
Les gens qui ne travaillaient pas partout.
Et je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui où est-ce que ça peut être. Je sais pas si
c'est où il y a Emmaüs maintenant.
Il y a Emmaüs maintenant à la source.
À la source.
C'est c'était au là. Bout du avant, boulevard de Concire. C'est après le Berger.
Avant, comment, l'eau Saint-Cyr.
Cristalline.
Ouais.
Et juste à la place où il stoppe maintenant, des palais, c'était des Bengales.
Ouais. Et c'était en pleine race campagne, c'est-à-dire que les gens, pour aller s'acheter à manger, il fallait faire au moins 3 km à pied. D'autre part, le camp était complètement ceinturé par des grilles.
Il y avait un gardien armé.
Oui. Et là, il y avait un responsable qui était un ancien adjudant de l'armée française et qui, dans son bureau, moi je me rappelle très bien, c'est une image qui m'est restée, il y avait son ceinturon qui était pendu.
Ok. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Honnêtement, pas grand-chose. Alors oui, maintenant, les immigrés ne sont pas seulement des travailleurs. Nous vivons à une époque où plusieurs raisons peuvent amener une personne à quitter son pays. Mais pour le reste, l'accès aux droits fondamentaux reste difficile pour les immigrés. Pensez à l'accès aux soins ou à un logement. Les lois anti-immigration continuent de se multiplier. Les projets de centres de rétention administrative continuent de se multiplier.
Si on t'entend bien, rien n'a changé. Il y a un truc positif quand même ou...
Ouais, il reste un truc positif qui n'a pas changé, c'est le travail militant. Depuis les années 70, l'alphabétisation était le principal acte militant. Puis, les lois anti-immigration se multipliant, les associations comme l'ASTI ou la CIMAD sont entrées dans la bataille juridique.
Il n'y avait pas d'accueil, donc je pense que l'État aussi comptait sur les associations pour faire le boulot à sa place. Les associations de soutien aux immigrés... qui jusque-là faisait surtout de l'alphabétisation, eh bien se disent au fond, après tout, il y a des tribunaux, on peut peut-être s'en servir. Et à ce moment-là, quand le préfet prend une décision au tribunal administratif, eh bien les associations réagissent et engagent une bataille comme ça juridique.
Ok. Pour finir, je voudrais mettre ça en lien avec un article de Mediapart du 3 juillet qui recense plus d'une agression raciste par jour. Depuis le 9 juin et le score inédit de l'extrême droite aux élections européennes, chaque jour, la presse recense une agression ou un propos raciste. Avec la présentation que vous venez d'entendre, vous comprenez que ces discours ne sont pas nouveaux, mais que maintenant ils s'expriment physiquement. Courrier, tabassage, menace de mort, parfois armes à la main, tag, soirée xénophobe, incendie volontaire, bref. Je vous invite plutôt à lire l'article qui recense à peu près tout ce qui s'est passé depuis le 9 juin. Le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie ou la transphobie décomplexée de l'extrême droite dans les espaces publics et médiatiques ont libéré l'intolérance et la violence. Une violence dans un présent du quotidien, une violence dans le passé vidé de toute substance, une violence vis-à-vis de l'avenir aussi, une violence tridimensionnelle, réitérée, cumulative, qui se veut violente. France Fanon.
Ouais.
Elle engendrera nécessairement une colère juste qui cherchera à s'exprimer. Cette colère attendra-t-elle la rentrée ou s'exprimera-t-elle durant les vacances ? Ça, on verra bien. Une chose est sûre, la lutte continue contre le fascisme et elle ne date pas d'aujourd'hui. Et les réponses pour notre avenir se trouvent peut-être dans notre vrai passé.
Merci à toi pour ce reportage et encore une fois, si écoute l'émission, gros bisous à Monsieur Régis Guyotat, tu as cité l'ASTI, la CIMAD, mais il y avait également une très belle association que j'ai connue dans le temps, dans les années 80-90, qui s'appelait l'ADAMIF, qui a documenté. Vous savez, quand je suis arrivé à Orléans, il y avait des papis et mamies de Tunisie, d'Algérie, qui habitaient dans les baraquements à côté de la Loire. On allait les voir, discuter avec eux, et l'ADAMIF avait récupéré. Alors, il y avait des poèmes. Je crois que j'ai toujours le livre chez moi, je vous le passerai. Et certains sont morts ici, dans la misère. Et j'en parlais parce que en 2001, quand la droite est arrivée à Orléans, ils ont coupé les vivres de la DAMIF. Ça, c'est fait. Ça fait à Orléans. Et il faut le dire et le redire. Merci à toi.
Et lisez le livre. Il y a plein de photos aussi dans le livre.
Je vais le faire.
Franchement, c'est super. super intéressant sur Orléans, voir comment était configuré Orléans avant. Il y avait ce qu'on appelait l'île de Corse, donc qui était à Orléans. Donc, bon, allez voir tout ça. Ça vaut le coup.
Très vite, on va parler du dispositif avec, juste après ceci.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Alors, ce dispositif avec, AVEC, acronyme pour Appel à projet vie étudiante et de campus. C'est un dispositif initié par la région Centre-Val de Loire pour améliorer la vie étudiante sur les campus du territoire. Une vie étudiante devenue difficile, vous le savez, depuis la pandémie du Covid. Entre décembre 2023 et février 2024, un appel à projet a été lancé, une centaine de dossiers reçus, 53 retenus. Et écoutez le président François Bonneau nous expliquer le pourquoi de cette décision d'aider les étudiants.
L'objectif de ce dispositif, c'est de répondre à la précarité étudiante. Le Covid, et depuis le Covid, on a révélé véritablement qu'un nombre important d'étudiants connaissaient des précarités, des fragilités, des difficultés d'ordre matériel, d'ordre psychologique, et que cela, bien évidemment, nuit très directement à leur réussite. Pour vous donner un chiffre, au campus, qui est une association étudiante, a conduit une étude directement auprès de l'ensemble des étudiants d'Orléans, qui a révélé que pour 47% d'entre eux, il y avait des difficultés à se nourrir normalement, c'est-à-dire à assurer à chaque temps de repas l'acquisition d'un repas équilibré. Ça montre la difficulté. Et donc ces jeunes, il faut leur envoyer un message qui est un message de solidarité, mais il faut aussi concrètement mettre en place des dispositifs de solidarité. Ces jeunes, si on les accompagne, réussiront leurs études parce qu'ils pourront réaliser leur épanouissement, leur concentration et bien vivre. Si on ne le fait pas, on va les retrouver en situation d'échec, alors que notre société a besoin d'une jeunesse qui est épanouie d'une part, et d'autre part d'une jeunesse qui réussit ses études. On a besoin de ses compétences demain. Donc pour toutes ces raisons, on a choisi d'aller plus loin. Je dis aller plus loin parce que la région était d'ores et déjà la première région pour l'effort qui est apporté aux jeunes dans leur vie quotidienne, aux étudiants dans leur vie quotidienne, dans l'ordre de la mobilité, dans l'ordre de l'accompagnement psychologique. Nous, on a voulu aller plus loin parce que la réalité est pour eux de plus en plus difficile. À cette difficulté accrue, une réponse qui est une mobilisation plus forte. On a voulu le faire non pas en disant un nouveau dispositif partout le même, on a voulu le faire en travaillant avec chaque site universitaire, et nous avons des sites universitaires dans chaque département de cette région. On a voulu le faire avec les collectivités territoriales qui sont les collectivités d'accueil. On a voulu le faire avec les universités, avec l'INSA. On a voulu le faire avec les étudiants eux-mêmes et on a lancé cet appel à projet qui nous a permis de collecter plus de 70 projets et d'en retenir plus d'une cinquantaine pour un total d'1 500 000 euros qui viendront s'ajouter à l'effort qui était déjà consenti.
François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire. Anne Bénier, vice-présidente de la région chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation, était également là. Je lui ai demandé quels étaient les critères pour avoir un peu de subvention de la région. Écoutez-la.
Alors, les premiers critères, bon, c'est que ça concerne un maximum les étudiants. Et on a eu des projets cette année qui concernaient à la fois des jeunes, mais pas que des étudiants. Donc là, on n'a pris que la part étudiante. Donc il faut que ça concerne les étudiants, il faut que ça concerne un maximum d'étudiants, que ce ne soit pas un besoin lié à une demande pédagogique. Et les critères, c'est que les agglos, bien évidemment, et les universités soient d'accord.
Merci beaucoup. Une centaine de projets envoyés, une cinquantaine, c'est ça, 52 financés. Pour 2025, vous attendez à plus de projets. Et est-ce que vous vous dites, au-delà d'un chiffre, on arrête
Ah ben nous, on a un budget de 2 millions d'euros. On ne pourra pas. C'est déjà beaucoup. Vous voyez, là, on ne les a pas atteints, les 2 millions d'euros. On est à 1,4 million. Donc on a tout de même une marge pour l'année prochaine. Alors je ne sais pas si on aura plus de projets ou moins, parce qu'on demande aussi que les projets soient un peu plus sur tous les départements. Alors ça ne sera pas tous les projets sur tous les départements, parce que chaque ville a sa spécificité sur les étudiants. Donc peut-être que s'il y a des projets plus multi-départements, en nombre, il y aura peut-être moins, mais en montant, ça sera équivalent.
Ouais, 53 projets subventionnés par la région, notamment Radio Campus. Monsieur Erwan, vous étiez avec moi.
Oui, je suis là.
Mais on a eu un peu de sous de la région.
Et oui.
Alors, c'est quoi le projet?
Alors, le projet, ça va être les 30 ans de Radio Campus Orléans. Alors, chers auditeurs, vous allez me dire, mais on a déjà commencé à faire les 30 ans. Et oui, c'était la première partie des 30 ans, donc fin mai et début juin dernier. Mais on remet le couvert à partir tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. On se donne rendez-vous au Bouillon, au 108, à l'Astrolabe. Et même, il y aura un marathon radiophonique. Un marathon va faire 30 heures pour les 30 ans de la radio. Enfin, voilà, tout ça, ça va pas tarder à arriver sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Le programme complet, et on a la chance en effet d'être soutenu par la région Centre-Val de Loire via le projet AVEC.
Et par, l'université, parce que je crois que tu as eu, la connaissance de ce projet avec l'université. L'université d'Orléans était représentée par Frédéric Moal, vice-président chargé de la vie des campus. Je lui ai demandé depuis quand l'université a travaillé là-dessus, écoutez.
Le recteur avait décidé en fait de nous mettre chef de file sur un certain nombre de territoires de la région centre, en l'occurrence où on est présent. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque territoire, il y avait un binôme de la métropole et d'un établissement d'enseignement supérieur. Et donc, on a été chef de file au titre de l'enseignement supérieur sur Orléans, Chartres, Châteauroux et Issoudun, en fait, au niveau régional. Donc, on était animateur entre guillemets de l'appel à projet, et en plus évidemment recteur avait décidé en fait de...
J'ai un problème sur le montage. Alors qu'est-ce que... Oui, alors monsieur Erwan est là, donc on va... Oui. Mais il n'y avait pas. Alors, du coup, on est à la fin de l'émission bientôt. Il ne faut pas rigoler.
Non, si mais tu veux, je peux te parler de mes vacances.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que très vite, je vais faire un autre montage spécial qu'on va mettre sur le site de l'université, parce que j'ai également interviewé un des vice-présidents de l'université de Tours qui était là, qui a fait un forum logement. C'était histoire de faire parler M. Thomas très, très vite.
Ouais,
on est aux Jeux Olympiques bientôt. L'équipe de France de basket est à Orléans.
Oui, tout à fait. L'équipe de France de basket masculine est à Orléans pour la préparation des Jeux Olympiques. Deux matchs qui vont se dérouler ce vendredi et ce dimanche, avec en point d'introduction d'abord également deux autres matchs avec Porto Rico notamment. Il y a quatre équipes en fait qui sont à Orléans rassemblées pour ces deux journées. Vendredi 19 juillet, on commence avec le match Porto Rico contre l'Australie à 18h15, suivi de France Canada à 21h, et dimanche 21, on remet le couvert avec Porto Rico contre le Canada à 18h15 et la France qui affronte l'Australie à 21h. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont deux matchs contre deux adversaires très forts. Pour le coup, le Canada est clairement prétendant à une médaille olympique avec une équipe composée de gros joueurs NBA. Pour les connaisseurs, il y a Shai Gilgeous-Alexander qui est certainement l'un des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde actuellement, donc qui sera à Orléans, avec Jamal Murray aussi qui est un gros joueur canadien. Pourquoi je vous en parle aussi? Parce qu'on est sur cette tournée un peu de l'équipe de France en marge de ces Jeux Olympiques. L'équipe de France a préparé ces Jeux Olympiques avec plusieurs matchs. Ça avait commencé très 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 fort avec une énorme victoire contre la Turquie, alors une équipe B de la Turquie sur le score de 96 à 46. On s'est dit, oula, c'est bon, c'est parti, on s'envole avec une grosse grosse équipe. On a affronté l'Allemagne ensuite, on les a battus sèchement sur le score de 90 à 66, mais pareil, les Allemands n'avaient pas ramené toute la meilleure équipe. Et le troisième match, grosse désillusion, on perd à domicile 65 à 70, sans Victor Wembanyama, notre superstar. Ouais, alors on s'est dit, ok.
C'est la grosse star. Hein.
C'est la grosse star.
Elle sera là à Orléans.
Elle sera là à Orléans. Et normalement, il devrait jouer, en principe, puisque sur ce troisième match, il était absent. Mais lorsqu'il est revenu, on a joué contre la Serbie et on a perdu à nouveau sèchement 79 à 67, cette fois-ci avec Wemby. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes.
Sèchement, ouais. Ça va.
Bah, quand même, 12 points d'écart, c'est quand même pas.
Oui,
non plus,
enfin, tout à l'heure, tu me sortais du 90 contre 60.
Oui, non, mais là, oui, voilà. Oui. Mais quand même, c'est une belle défaite qui pose quand même question. Et effectivement, on a cette superstar, Victor Wembanyama, qui va attirer toute l'attention actuellement. On l'annonce comme le futur grand joueur, la future grande légende. Kareem Abdul-Jabbar, tu connais? Bon, si t'as regardé Bruce Lee.
Mais évidemment.
Et bah voilà, et bah là, c'est le Kareem Abdul-Jabbar version 2.0.
Absolument. Mais en tout cas, ouais.
Et on sera sur place.
Voilà, c'est ça. Et tu vas essayer de faire des interviews.
Ouais, tout à fait. On va faire des interviews.
On va voir les superstars.
On va les rencontrer. rentrer demain. On va les rencontrer.
Il y a des places ou pas, ouais. Ou bien...
Alors, je sais plus si toutes les places ont été distribuées, là, pour le coup. Voilà. Je pense qu'à mon avis, c'est complet ou quasiment, mais essayez de voir un peu sur les sites.
Dans l'équipe de
mais on sera là.
Ils sont chauds. Ah,
et on vous fera un long format sur la Redac Pop. On a voulu commenter des matchs en direct, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Il n'y avait pas de ligne internet pour pouvoir se connecter. Trop de médias qui ont demandé.
Mais compte sur Erwan pour l'année prochaine. Je vais vous remercier, chers amis.
Merci à toi.
Merci à vous.
Vraiment de votre présence cette année. On remet ça en septembre. Erwan, merci, la bise. Deux, trois notes de musique, parce que je voulais terminer cette émission musique comme toujours. avec. C'est avec la divine Grace Jones que nous terminons en musique cette saison. Ça s'appelle Well, Well, Well.
Et bel été à tous.
Passez un bel été. Revenez début septembre ici.